Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Deeply Rooted. On est ravis de revenir pour cette année 2020. En plus, on a plein de choses à vous annoncer, des nouveautés, des vidéos, des rubriques. Et voilà, on va en parler juste après. Juste avant ça, je vous présente l'équipe, mais vous la connaissez déjà. En face de moi, Momo.
Scu 2020 est à moi, je vous le dis tout de suite.
Et à ma gauche, Jojo et Kelly le Joji.
Bonne année à tous, ça fait plaisir de revenir. Nouvelle décennie, on revient fort, on a plein de projets en tête, plein d'idées pour vous régaler.
Voilà. Exactement, on va revenir encore plus fort et on a en plus un programme chargé ce soir pour la dernière épisode sur la trappe. Mais je vous le disais donc, plein de nouveautés et notamment la sortie de notre site internet deeplyrooted.fr où vous allez pouvoir retrouver la carte des États-Unis, vous balader dessus et découvrir donc toutes les scènes, les sous-genres par ville ou par région. On est très content de vous proposer ça, ça fait un moment qu'on avait ça en tête, c'était même à la base du projet. Et voilà, donc ça arrive, on vous balancera le lien, mais donc c'est www.deeplyrooted.fr et en même temps ça nous permet de vous balancer des playlists, des vidéos, des albums.
On diversifie notre approche quoi.
Voilà,
et on va divers médias quoi.
Et on va compléter à chaque fois les émissions pour approfondir le sujet. Donc voilà, on est content de vous présenter ça. On en reparlera donc sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver dessus du coup tous nos podcasts. Il y en a déjà 14, donc ça vous fait de quoi rattraper. Et on va vous présenter aussi, il y aura des nouvelles rubriques pour cette année 2020 sur les réseaux sociaux, des vidéos que Momo devrait nous préparer et de qualité.
Ah, plus que jamais là, je suis déterminé.
Et donc YouTubeur en germe.
Exactement, et pour ce soir, donc je le disais également, programme chargé, puisqu'on s'était arrêté sur le deuxième épisode sur la trappe d'Atlanta. On avait parlé de Young Jeezy, on avait parlé de Gucci.
Surtout de Gucci, hein.
Surtout de Gucci, de ces deux gros monstres.
Gucci.
Mais il nous reste encore beaucoup de monde à évoquer.
Bah, il nous reste en gros toutes les années 2010, ce qu'on va essayer de faire dans le temps imparti ce soir.
Donc parce que la trappe continue et c'est encore aujourd'hui le style prédominant.
C'est le style qui domine totalement et pas qu'aux États-Unis d'ailleurs.
Donc on pourra même pas terminer, on en fera sûrement des nouveaux épisodes, etc. Et parler de son influence demandera encore plus de temps. On s'envoie le premier son de cette émission avec 2 Chainz, un son de 2019, NCAA. Et on revient juste après pour entamer cette émission. A tout de suite. De retour dans Deeply Rooted pour parler rap US et on vient de s'écouter 2 Chainz avec NCAA. Et je crois que Jojo, tu voulais dire deux mots de l'animal.
Voilà, ouais, alors juste avant, on prononce quand même NCAA. J'étais obligé de te le faire remarquer. Non, du coup, 2 Chainz, on aurait voulu en parler dans l'émission précédente et dans cette émission-là. Il est un peu compliqué à caser, il est un peu à part, mais c'est quand même un mec important qui fait du très bon son surtout. Donc voilà, on tenait à mettre un petit son, donc allez écouter 2 Chainz.
Et on vous balancera peut-être une source ou deux pour conseiller des sons, des albums à lui.
Carrément.
D'accord, mais par contre là, c'est Momo qui devait nous parler de Future.
Future,
un
nom
que vous avez déjà dû entendre. Si vous êtes un peu...
Momo l'oracle.
Si vous êtes passionné de rap, forcément que vous avez déjà entendu de ses chansons. Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui?
Oh là, je peux vous dire plein de trucs sur Future. Hein. Déjà qu'à la base, il s'appelait pas Future, il s'appelait Mid-Head, moitié tête. Bon, je sais que ça veut pas dire grand-chose, mais toujours pour la petite story, parce que généralement, je me rends compte qu'ils commencent avec un nom, ils font une partie de carrière, et bon, ces dernières années, ils se mettent tous à changer de nom. C'était le cas de Young Jeezy, par exemple, qui s'appelait Jeezy, mais voilà, c'est pour la petite anecdote. Donc savoir qu'il a commencé, c'est un mec d'Atlanta aussi, qui a un peu commencé en famille avec son cousin Rico localement. Mais il a surtout travaillé avec la Dungeon Family, dont on vous a parlé.
Rico, c'est celui de Organized Noise, non
le, ouais. Ouais,
c'est ça.
Exactement, c'est vrai que j'ai dit son cousin Rico, mais ouais, du coup, tout ça, c'est la Dungeon Family dont on vous a parlé avec Outkast et quand on vous a parlé des prémices de la trappe à Atlanta. Et voilà, faut dire qu'il n'était pas entouré de n'importe qui à ce moment-là. Et il a commencé aussi à travailler avec un mec qui s'appelle Da Connect, qui était aussi associé à la Dungeon Family, mais ça n'a pas été très longtemps parce qu'il a décidé de prendre son envol solo et de fonder son propre label qui s'appelle Free Bands en 2011, et il sort son premier projet où il se fait remarquer qui s'appelle Pluto. Et de suite à plein de petites sympas, on va dire, mais il n'y en a encore qu'à ses débuts. L'année d'après, il commence vraiment à se faire remarquer parce qu'il fait la couverture de XXL Magazine. C'est aussi un magazine dont on vous a parlé, c'est un peu une institution aux États-Unis au niveau du rap. C'est-à-dire que chaque année, ils te mettent leur top 10 de rappeurs qui vont
Freshmen, ouais, c'est ça.
Exactement, qui vont percer. Et cette année, il n'était pas avec n'importe qui parce qu'il y avait Macklemore que le grand public connaît. Il y avait Machine Gun Kelly que voilà, c'est un mec pareil qui a eu son petit succès. Iggy Azalea et French Montana. Entre autres, donc c'était
que des gens talentueux. Hein.
Que des gens talentueux.
Or, French Montana, bien sûr.
French Montana, le roi du refrain de New York, ami de P. Diddy, et qui s'est fait ensorceler selon lui. D'ailleurs, j'ai vu une interview de Brut récemment où il dit qu'il s'est fait ensorceler au Maroc en mangeant un plat. Voilà. Vous irez vous documenter là-dessus, mais c'est autre chose. Donc, suite au succès de Pluto, et après s'être fait remarquer, pour son talent et surtout pour la maîtrise de son autotune, parce qu'on va en reparler après, mais c'est quelqu'un qui était très doué, qui est très doué avec l'autotune. Bien qu'il y ait plein de gens qui disent que l'autotune c'est pas un instrument, machin machin, c'est nul, blablabla, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte que c'est très difficile de bien chanter avec de l'autotune et d'en maîtriser les variations, etc.
Oui, voilà, bien chanter, bah, normalement ça aide à bien chanter, mais oui, comme tu dis,
à maîtriser
l'outil que c'est, en effet, il y a des mecs qui le font plus ou moins bien.
Ouais, et il le fait tellement bien qu'il est invité, à faire plein de refrains sur des gros sons. Par exemple Bugatti de Icewood, où il est très monstrueux dessus, bon, il fait un peu mal aux oreilles, mais voilà, il était un peu vu comme le futur T-Pain à un moment, qui, rappelez-vous, a eu dans les années 2010 son heure de gloire, où il était sur un refrain sur trois du rap américain.
Alors lui, d'ailleurs, c'était pas de l'autotune qu'il
utilisait. Non, c'était du vocoder.
Ouais.
Ouais, donc c'est un peu différent, on vous fera un petit sujet là-dessus aussi, différence d'autotune, vocoder, et c'est quoi l'autre nom là, Tools ou je sais plus quoi.
Il y a le truc ouais, quand tu soupes dans un tuyau.
Là. Ouais, voilà, donc on vous fera un petit sujet là-dessus parce qu'il y a plusieurs types de variations pour cet instrument-là, entre guillemets. Donc, il continue à se faire repérer. 2014, il sort son premier album qui s'appelle Honest et où il y a un featuring avec André 3000, toujours d'Outkast, dont on vous a parlé. Donc, l'album, c'est un.
Excuse-moi, juste plutôt, c'est pas un album, c'est.
Pour moi, c'était une première mixtape, peut-être que je me suis trompé, mais.
Il me semble que c'est son premier album, mais. Bon, désolé.
Bon, bah, je vous dis des bêtises. Heureusement qu'il y a Jojo le correcteur. J'ai mal fait mon travail, je me suis fait taper sur les doigts, mais c'est pas très grave. Donc, ce deuxième album, Honest, qui n'est pas un vrai succès commercial, ce qui lui fout un peu le seum, même s'il s'y attendait. Mais il s'est dit, pas grave, je vais mettre les bouchées doubles, et là, il sort Monster. Une putain de mixtape que j'ai vraiment aimé. Jojo, je crois aussi que t'as vraiment kiffé.
Ouais, bah là, il prend une vraie ampleur avec ce projet-là, qui est, je crois, exécutive, producteur. Enfin, c'est Metro Boomin qui est un peu derrière, qui fait pas toutes les prods, mais qui chapote un peu le truc. Boomin qui est un grand producteur. Hein, et...
Metro Boomin, ouais.
Et donc, le projet, c'est son premier grand projet, je pense, et après, là, il part sur une ascension dont tu vas parler, je pense.
Là, il part clairement en Y, comme dirait notre ami Jules, parce qu'il y a aussi Beast Mode, qui est produit par Zethoven, dont on vous a aussi parlé dans la dernière mission avec Gucci Mane. L'album Dirty Sprite 2, qui est appelé DS2, mais pour Dirty Sprite, qui est une référence encore à la Lean, cette fameuse boisson magique de Panoramix de Houston, que les rappeurs adorent. Et voilà, c'est cet album-là, DS2, c'est un classique du genre. Et c'est une tuerie de ouf, quoi.
Et donc là, dans un niveau trap, il est quoi? Il fait du classique, il réinvente un peu le genre.
Il réinvente un peu le genre parce qu'il. Déjà, avec l'autotune, c'est quelqu'un qui va pousser l'utilisation de l'autotune très loin. Il change aussi beaucoup, beaucoup de flow. On dirait pas comme ça, t'as l'impression, je pense, que quelqu'un qui va écouter deux chansons de futur ou trois, il va dire. Bon, je sais pas, c'est un peu bizarre, il dit la même chose, et en fait, pas du tout.
Est-ce qu'il dit des choses déjà, parce qu'il baragouine aussi un peu?
Ah, il a un peu aussi démocratisé le mumble rap, on va appeler ça comme ça, c'est un rap murmuré, mâchouillé, à la limite du compréhensible.
Du rap yaourt, quoi, en français?
Tu peux appeler ça du rap yaourt, du rap flamby, comme tu veux, mais c'est murmuré, mais ça lui permet d'être techniquement très fou. Et c'est vrai que parfois c'est à la limite du compréhensible, et c'est quelque chose en plus, entre guillemets, qui s'aggrave au fur et à mesure de sa carrière, parce que... Il lâche pas le truc, mais c'est quelqu'un qui fume beaucoup, tu vois, et qui boit aussi beaucoup de lignes, comme je disais. Donc ça peut expliquer aussi son penchant pour le fait de meubler ou de yaourter, je sais pas comment appeler ça. Mais force est de constater que c'est quelqu'un de très fort, c'est quelqu'un qui est très mélodique et planant, il est extrêmement doué pour les refrains, l'utilisation de l'autotune aussi. Je me répète, mais il est vraiment très très fort. Et c'est aussi quelqu'un qui fait beaucoup de bangers de son dansant, etc.
Ce que je veux dire, et puis beaucoup de collaborations. Enfin, quand il vient sur un morceau, généralement, ça marche. Quoi.
Ah oui, ça. Enfin.
Ce qui ressort, je trouve, c'est qu'il a vraiment une vraie maîtrise, comme tu dis, de l'autotune. Et on sent vraiment qu'il. Enfin, techniquement, ces morceaux sont hyper maîtrisés. Et c'est vraiment un canon de ce style de trap. C'est vraiment le canon parfait, en fait. Enfin, personne ne fait ça aussi bien que lui, quoi.
Ouais, pour moi,
c'est un peu mélodique, tu sais, mais un peu planant. Voilà, quoi. C'est ça, un peu son style.
C'est clairement la définition de la trap actuelle. C'est lui. Enfin, sans les autres aussi, mais il est très très fort. Et sur son label, d'ailleurs, Free Benz, que j'ai mentionné un peu plus tôt, il a signé un autre rappeur d'Atlanta qui est, bon, moins d'envergure, mais qui reste connu localement et pour les aficionados du genre. C'est un mec qui s'appelle Young Scooter. Définitivement, les noms aux États-Unis restent très drôles. Et donc, jeune Scooter, il a été influencé par Future, mais surtout par notre ami Gucci Mane, qui est le père d'environ 153 000 rappeurs aux États-Unis. Et ça se ressent dans le flow. Bon, il est moins mumble, donc moins murmuré que Future. Mais voilà, ça fait partie de la nouvelle génération trap.
Qui n'a pas débarqué réellement en France, par contre.
Ah non, Young Scooter.
Ça reste local, ouais.
Ouais, ça reste local, aux États-Unis.
Rocco aussi, non, qui fait partie de Free Benz.
Ouais, je crois, ouais. Yep.
Mais c'est pareil, c'est des trucs locaux, quoi. Ça reste...
C'est des mecs qui sont, voilà, ils sont quand même talentueux, on va dire, mais bon, ça manque de constance, ils ont des petites fulgurances, mais voilà. Ça s'écoute très bien. Je vous conseille un morceau qui s'appelle Rarys and Bentleys, qu'on vous partagera plus tard, mais voilà, c'est très cool à écouter, y a pas de souci.
Ok, donc pour découvrir Future, conseillez quoi peut-être comme album?
Bah, les Dirty trois Sprite que j'ai cités. Dirty Sprite 2, son album, c'est studio, tout est calibré dessus. Et les deux mixtapes, Beast Mode, il en a sorti une deuxième récemment, et Monster. C'est ces trois-là, et tu sais ce qu'il est capable de faire, et tu comprends qu'il est très 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 fort.
Ok, bah on vous balancera les liens dans la description. On va s'écouter d'ailleurs un son de lui avec Lil Wayne.
Exactement, qui s'appelle After That, qui date de 2014, qui est sur la tape Monster, et très lourd.
A tout de suite. Vous êtes toujours dans Deeply Rooted, je suis toujours accompagné de Momo et de Joachim. Joachim qui va nous parler de Young Thug. Pour rappel juste, on vient de s'écouter donc After That de Future avec Lil Wayne, et tu vas nous parler donc d'un autre grand
grosse tête des années 2010 dans ce style de trap. C'est donc Young Thug, qui s'appelle en réalité de son état civil Jeffrey Lamar Williams. Il a grandi dans la zone 3 d'Atlanta. On vous rappelle qu'Atlanta c'est délimité en plusieurs zones, 6 zones je crois,
ouais.
Et lui dans la zone 3, donc il y a zone 3 et zone 6, c'est un peu là où il y a le plus de rappeurs, en gros les quartiers les plus chauds, quoi.
Ouais, c'est la question que je me posais tout à l'heure quand tu parlais de Future, c'est est-ce qu'ils se regroupent dans des coins, est-ce que il y a des pôles un peu avec différents rappeurs, j'en sais rien.
Si la zone 6 par exemple, c'est le cas, et la 3 aussi.
Future est zone 6 je crois aussi, et
ouais, Future c'est zone 6,
c'est zone 3. Donc lui commence au début des années 2010 aussi, donc en 2011 sa première mixtape I Came From Nothing, qui est très très bancale, les prods sont un peu dégueulasses, ça sonne très cheap, assez peu d'imagination, les morceaux sont complètement déstructurés, mais il y a quand même sa voix à Jeffrey, parce qu'il a quand même une voix exceptionnelle, et on sent un potentiel incroyable avec cette voix, parce qu'il est capable de fulgurance dans les aigus, il a un sens mélodique, il est capable vraiment de trouver des bonnes mélodies très accrocheuses, et donc voilà, donc c'est... Déjà, ce potentiel est décelable malgré la piètre qualité de cette première mixtape. Faut savoir que c'est un grand grand fan de Lil Wayne, il a envie de devenir Lil Wayne en fait, et ça s'entend assez
oui,
bien
voilà,
dès le début.
Quoi. Vite,
ouais. Mais dès le début, chaque projet va vraiment lui ouvrir de nouvelles portes en fait, c'est soit une progression constante. Et c'est avec son ami d'enfance Pee-wee Longway qui passe beaucoup de temps. Et Pee-wee Longway, c'est un mec déjà que j'aime beaucoup. Il fait pas mal de rap. C'est un rappeur aussi. Il fait pas mal de il sort pas mal de projets. Il est aussi couvé par Gucci Mane, etc. C'est un peu toute cette team là. Et Pee-wee Longway, il envoie beaucoup de soirées. Il a un manoir en fait. Et il envoie plein de soirées. Il y a plein de gens qui se retrouvent. C'est des trucs. Enfin, c'est une sorte de trap house, je pense. Tu vois son manoir. Et il y a plein de gens qui se retrouvent, qui se rencontrent, pardon. Et c'est donc au cours d'une de ces soirées, dans le manoir de Pee-wee Longway, que Young Thug rencontre Gucci Mane, qui sera son premier père spirituel, l'ange de son épaule droite, qui est plutôt bienveillant. Et à la suite de cette rencontre, il commence à collaborer très souvent. On retrouve Young Thug sur les albums de Gucci Mane, sur les multiples projets de Gucci Mane. Et il signe donc sur le label 1017 Brick Squad. Et... une mixtape sort donc en 2013, fin 2013, 1017 Thug, qui est une mixtape incroyable, elle est complètement bordélique, elle est très très drôle, mais on peut entendre vraiment toutes ses qualités de rappeur, il a une voix qui s'étire incroyable, il a une capacité à changer de flow innombrable de fois dans un morceau quoi. Encore une fois ce talent mélodique, la diction qui est un peu approximative comme Future, mais par contre dans ce projet ce qui fonctionne mal en fait c'est qu'il y a les prods qui sont des prods typiques de 1017, le label donc, de Gucci Mane, donc c'est les producteurs comme Lex Luger, Nard NB, 808 Mafia. Et en fait, c'est des
gens qui sont bons, mais qui sont.
Non, qui sont très bons, en fait, mais les instrus, elles prennent trop de place, en fait, elles sont trop imposantes.
Ouais. Il n'y a que Gucci Mane qui pouvait réussir
à les dompter, ouais, peut-être. Il faut un Gucci Mane pour pouvoir les dompter.
Typiquement, Lex Luger, en plus, c'est vraiment. Ces instrus, elles sont costauds, donc il faut les gérer.
Ouais, c'est ça. Mais donc, il aura besoin donc, d'une autre rencontre avec son deuxième spirituel, qui est peut-être un peu plus vicieux, celui-là. J'ai nommé donc un certain Birdman, dont on avait déjà parlé lors d'une émission, notre émission pardon, sur la Nouvelle-Orléans. Et donc Birdman, à ce moment-là, il est en beef avec Lil Wayne, enfin, ils se sont un peu en conflit, donc il voit ce jeune artiste et il se dit, tiens, bah, ça va être mon nouveau Lil Wayne, je vais pouvoir le faire monter et en faire max d'argent avec lui, quoi.
Oui, parce que Birdman, c'est sa spécialité, il attrape un artiste, il lui attrape...
Ouais, et puis les arnaques, en fait, il
ouais,
les escroque.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est ce qu'il avait fait avec Lil Wayne, et là, ce qu'il veut lui refaire, forcément, puisqu'il pense faire la même chose. Et donc il le signe aussi sur son label, mais ce qui est intéressant pour le coup, il apporte aussi du positif, il lui fait rencontrer deux producteurs qui correspondent beaucoup mieux finalement au style de Young Thug, qui va se trouver artistiquement grâce à ces producteurs-là. J'ai nommé donc Wheezy et London on the Track, qui sont donc des producteurs qui font des prods plus minimalistes, qui laissent en fait toute la place à Young Thug de s'exprimer. Et ça se retrouve directement sur le projet de Rich Gang, qui est donc Birdman, Young Thug et Rich Homie, un autre rappeur d'Atlanta, quoi. Et donc cette mixtape qui sort en 2014 propulse vraiment Young Thug, ça participe à créer un énorme buzz autour de lui. Buzz qui va culminer jusqu'à la sortie de son album, même s'il appelle pas ça un album, qui s'appelle Barter 6.
Ah oui, je t'ai persuadé que c'était une mixtape.
Ouais, bah en fait, on sait pas trop, mais en fait, je crois que depuis le début de tous ces projets, il y a un flou en fait, on sait pas si c'est des albums ou des mixtapes. Ça veut plus dire grand chose de toute façon aujourd'hui.
Oui, parce que hier, globalement, maintenant, la distinction est moindre.
Mais ce qui est important de dire, c'est que l'album s'appelle Barter 6, qui est donc en référence à la série Carter de Lil Wayne, qui à ce moment-là attendait de sortir son Carter 5. Là, il sort Barter 6, donc il y a un peu un truc genre je prends ta place, c'est moi, enfin je t'enterre quoi. D'ailleurs, il y a quelques lignes un peu subliminales dans l'album où il dit qu'en gros, voilà, c'est son idole, mais il veut l'enterrer, tu vois, il y a un peu ça. Mais cet album-là, un peu comme Dirty Sprite 2, c'est le grand classique de Young Thug.
Moi, c'est là où je découvre. Bah, c'est toi qui me fais écouter, je crois, à l'époque. Et c'est vrai que, bon, à la première écoute, c'est pas évident à rentrer dans l'univers de Young Thug. Et il sort des clips aussi. Alors, je sais pas si c'est à ce moment-là ou
avant. Toute une image qui va avec où il est un peu efféminé, il met des robes.
Il y a le personnage.
Ce truc qui est complètement clivant. Complètement clivant dans un monde comme le rap, Atlanta,
c'est censé être des gangsters, de la drogue, et lui, c'est vrai que, comme tu dis, il met des robes, il est féminin, il monte dans les aigus, et ses clips sont assez loufoques aussi, enfin, ils sont
complètement tripants, ces clips, il y en a certains.
Non, mais là, c'est l'image, les vidéos sont l'image du son, quoi, c'est très délirant.
C'est ça. Et du coup, donc Barter 6, grand projet à écouter évidemment. Et depuis, après, il était un peu au top. Après, c'était en 2015. En fin 2015, il y a la série des Slime Season qui commence à sortir. 2016 encore, il est au top. Et il sort son deuxième album Jeffrey, qui est aussi excellent. Donc c'est un peu pareil que Future. Il y a toute une série de mixtapes où il est vraiment au top, même si c'est peut-être plus tendance à faire des longs projets avec des.
Bah, Jeffrey, c'est peut-être aussi au niveau commercial un peu l'aboutissement pour le grand public, non? Parce que avant.
Ouais, je suis tout à fait d'accord, mais je trouve que c'est un album quand même super réussi. Là, il prend vraiment avec sa voix, il fait des trucs et des morceaux où c'est vraiment incroyable ce qu'il arrive à faire avec sa voix. Et depuis, il s'est un peu. Il a un peu cherché justement peut-être trop à séduire le grand public, à se formater, entre guillemets. Il a fait un album de country pop un peu qui est intéressant à écouter en soi, enfin, c'est intéressant de voir un rappeur faire ça, tu vois, mais bon, c'est. Enfin, ça fait aussi penser d'ailleurs à Lil Wayne qui avait fait lui un album plus ou moins rock, truc trop bizarre. Mais bon, c'est quand même pas là qu'on a envie d'entendre, quoi.
Non,
et après, depuis, c'était un peu tous les projets qui sortaient. Il y en avait un qui était avec Future qui était pas extraordinaire. Tu sens qu'ils sont pas très inspirés.
Il fait des apparitions sur quelques feats et tout, mais.
Ouais, non, mais t'avais l'impression qu'il avait un peu perdu son grain de folie et qu'il prenait plus trop de plaisir, quoi. Plaisir qui s'est justement retrouvé sur son dernier album qui est sorti en août, je crois, 2019. So Much Fun, ouais, qui porte bien son nom, et cet album est quand même vraiment bien. Je trouve qu'on retrouve le Young Thug qu'on a envie d'entendre, qu'il est accompagné aussi de plus jeunes rappeurs, donc voilà, c'est son meilleur projet depuis longtemps en tout cas.
Et
donc ouais, bah du coup
bah, pour découvrir un peu son univers et vous mettre dedans, donc on vous a parlé de Barter Six, et on va s'écouter l'un des sons emblématiques de cet album,
le premier single qui était sorti, qui moi m'avait mis une baffe et continue de me mettre des baffes,
qui est donc Check. Voilà. Et comme ça vous pouvez rentrer dans son univers et voir son style si particulier. On se retrouve juste après, à tout de suite. De retour dans Deeply Rooted, on vient de s'écouter un son très très lourd qui est Check de Young Thug, et donc qui faisait partie de Barter Six, son album de 2015. Et maintenant on va s'attaquer à un groupe.
À un groupe ou un rappeur solo, on ne sait toujours pas. Le mystère n'est toujours pas. Le mystère reste entier.
Selon Ruff, c'est un rappeur.
Et dont le talent est parfois remis en cause, mais leur influence.
On va dire qu'on est quand même obligé d'en parler. Enfin, c'est quand même les rappeurs aussi les plus importants avec les deux qu'on a déjà traités. Je pense que parmi à cette table, on n'est pas tous convaincus.
C'est un peu les 2B3 du rap pour vous.
Mais bon, en tout cas, c'est quand même. Donc, on parle de Migos, je ne sais pas si on l'a déjà cité, mais donc c'est un groupe, un trio. Et une affaire de famille, puisque les trois garçons qui composent ce groupe, Quavo, Offset et Takeoff, ont été élevés ensemble, ils sont pas d'Atlanta même, dans un comté proche, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc Offset et Quavo sont cousins, et Quavo est l'oncle de Takeoff, c'est un peu bizarre quand même. On se demande s'ils n'ont pas des origines qui viennent du nord de la France. Bon, pardon, c'était pour la petite vanne.
Très drôle ça, mec. Ouais, bravo.
Très original. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est ce trio avec cette histoire un peu particulière. Parce qu'ils ont quand même le même âge, hein, c'est-à-dire que Quavo est l'oncle de Takeoff, mais ils ont le même âge. Peut-être 2 ans de différence, pas plus, quoi. Et donc, ils se font connaître, pareil, au début de l'année 2010, avec un paquet de mixtapes qui sont généralement bien, bien trop longues. Elles durent toute 1h30, 25 morceaux, c'est épuisant à écouter. Mais c'est, je pense, aussi une technique déjà de base de blinder leur mixtape, de mettre plein, plein de morceaux. Et après, il y en a quelques-uns qui font, qui marchent, quoi. Il y a toujours des hits. Ça.
Ce mode de fonctionnement est assez répandu maintenant.
En fait, maintenant, c'est encore plus répandu avec le streaming parce que voilà, ça fait plus de vues, etc.
En fait, c'est ce qu'on dit, c'est voilà, les gens, puis ils piochent. En fait, on leur propose 20, 25 morceaux, 30 morceaux, et puis on laisse piocher les gens, les radios, pour voir. Voilà. Moi, ça peut être un.
Bah, eux, dans ce truc-là, je pense qu'ils sont assez pionniers. Puisque ouais, c'est vraiment leur projet au début sont surchargés, c'est assez inécoutable. Enfin, moi je suis vraiment pas fan de leur premier projet, mais il y a quand même un truc qui ressort et un truc novateur qu'ils vont amener, c'est qu'il y a une vraie alchimie entre les trois. Ils ont l'impression d'être tout le temps en train de tourner autour de l'instru, ils se relaient quand il y en a un qui a à peine fini son couplet, que l'autre est déjà en train de commencer, donc tu vois, il y a vraiment un truc, une sorte de l'impression qu'ils sont en boucle, quoi, en fait. Et Quavo est un peu, ils ont un peu leur spécialité. Quavo est un peu meilleur pour les refrains. Offset, il fait des gros adlibs, il est à fond là-dessus. Et Takeoff, il sait un peu rapper, donc tu vois, ça peut servir.
Voilà, mais ils ont quand même un style de rap. Enfin, c'est eux qui lancent un peu le style haché, vraiment comme ça, ou. Enfin,
non, ouais, oui, c'est un peu eux. Ouais, c'est un peu eux. Après, ils sont, je trouve, beaucoup inspirés sur leur. On en avait déjà parlé, je pense, lors de l'émission sur Memphis. Je trouve que dans leur flow, il y a le truc un peu en triolet, comme faisait Lord Infamous. Ça, c'est un truc un peu qu'on leur reproche, c'est que finalement, ils ont adapté ça à la trap, mais voilà. Voilà, ils ont en tout cas lancé ce truc, cette trappe un peu énergique, ça vient un peu d'eux quand même, et il faut quand même leur donner ce crédit-là. Eux, ils percent avec le morceau Versace en 2013.
Attends, je crois que je me souviens des paroles. C'est quoi, c'est Versace,
Versace, Versace, Versace, Versace. Versace.
Voilà, c'est
à peu près ça, ouais. C'est un hymne au luxe d'un goût un peu douteux. Probablement considéré comme un des pires morceaux, un étendard de la déchéance du rap selon certains puristes. Je pense que c'est quand même pour une certaine frange du public de rap, on touche un certain fond avec ce morceau, mais c'est catchy quand même.
C'est leur premier tube.
Ça rentre bien dans la tête, on va dire. Ouais, c'est leur premier vrai tube. Il y a vraiment un gros buzz qui se crée avec ce morceau. Buzz qui s'estompe un peu. On se dit, ok, c'est marrant, Migos, ils ont fait marrer avec Versace, mais c'est fini. Et puis en fait, en 2017, là, ils ont surpris beaucoup de monde, dont moi, puisqu'ils sortent leur album Culture, qui est pour une fois assez condensé. Il y a 13 morceaux, c'est pas trop long. Et ouais, ça reste très. La qualité est au rendez-vous sur à peu près tous les morceaux. Et cet album, c'est un, je pense, un très très bon album, qui sort en 2017, donc je sais pas si je l'ai déjà dit. mais qui au-delà de la réussite, enfin du fait que ce soit un bon album qui est réussi, c'est aussi une manière de dire, et ça je trouve ça assez intéressant, que la culture aujourd'hui c'est Migos et maintenant c'est aux autres de s'adapter et pas l'inverse quoi. C'est pas à Migos de s'adapter à ce qui se fait, mais c'est vraiment Migos, c'est eux qui définissent les courants et voilà, et c'est aux autres de s'adapter, ce qui est en vrai. C'est ce qui est un peu le cas, quoi. Genre, il y a beaucoup de gens qui vont s'inspirer.
Ouais, ce qui s'est vérifié dans les faits après, ouais.
C'est ça. Et un an plus tard, ils ont sorti Culture 2, ils sont un peu retombés à leur travers, puisque le morceau, il y a encore 25 morceaux, je crois. Donc c'est un peu trop long, mais il y a quand même, c'est quand même bien plus qualitatif que ce qu'ils faisaient au début. Donc c'est quand même pas un mauvais projet. Et en attendant, il y a aussi Culture 3 qui va sortir normalement, un de ces quatre. Ils ont aussi sorti leur projet solo chacun. Ils ont, je conseille notamment par exemple celui de Take Off qui est pas mal. Last Rocket, je crois qu'il s'appelle, qui est sorti en 2018, et ils ont aussi sorti des compiles sur leur label Quality Control.
Voilà, sachant que hors musique, c'est quand même, de ce que je vois, dans ce qu'on suit un peu, c'est des stars, quoi, là-bas.
Ah oui, complètement, Offset, il sort avec Cardi B.
Et voilà, donc voilà. Ça, c'est une histoire qui revient souvent, et, ils se battent, ils font des conneries.
Ouais, bah, tout récemment.
Rockstar, hein. En vrai, avant, il y avait des rockstars, c'était blouson en cuir.
Ah oui, bah c'est ça, hein.
Ce genre de choses, là maintenant c'est Migos s'habiller en
ouais, ils font vendre du papier, etc. Quoi.
Ouais. Complètement. Mais ils ont quand même, enfin il faut le reconnaître, le fait qu'ils ont amené un certain style un type de trap un peu très, très dynamique. Voilà, enfin c'est vrai que c'est un peu gogol comme son en général. On peut pas se mentir, c'est pas du rap qui va t'élever spirituellement, mais c'est très enjaillant et voilà, il y a une vraie dynamique quoi, qui se dégage.
Ouais, et puis il y a une véritable influence même en France, imagine.
Ah oui,
beaucoup de rappeurs se sont tués à ça.
Complètement. Je pense à 13 Block et Niska un peu. Mais bon, voilà, on va en parler tout à l'heure, je pense.
De l'influence, oui, tout à fait. Ouais. Bon, la meilleure chose, c'est qu'on vous laisse vous faire une idée.
Voilà, donc un son de l'album Culture, donc qui est quand même a priori le meilleur album à ce jour. Donc le son, c'est T-shirt. Voilà.
T-shirt de Migos. Allez, à tout de suite. De retour dans Deeply Rooted, vous êtes toujours avec nous, on parle toujours rap US, on vient de s'écouter Migos avec T-shirt. C'est l'heure d'entamer une de nos nouvelles rubriques, la cour de récré jingle. Le principe de la cour de la récré, d'ailleurs tout court, c'est qu'on va parler des rookies, des jeunes pousses. Je vais vous donner la parole, vous allez me dire à chaque fois un peu les deux trois jeunes qui vous ont marqué et qui vous bottent. Donc on a toujours les terribles, les gentils, les méconnus, les gros durs. Momo, peut-être que tu commences ?
Ouais, parce que moi j'ai eu un peu du mal au début à rentrer dans toute cette trappe et je me suis... Bon, maintenant c'est cool, ça le fait, mais... Donc avoir mes petits protégés au début, non, mais je t'avouerai que globalement, là je vais rester un peu mainstream, ça va être 21 Savage et XXXTentacion. XXXTentacion, vous l'appelez comme vous voulez, et surtout 21 Savage depuis sa mixtape Without Warning. Qui a été faite avec Metro Boomin, très gros producteur de trap actuellement.
C'est aussi avec Offset, non ?
Il y a Offset, il y a Quavo dessus, il y a Travis Scott, donc effectivement bon les mecs de Migos, ouais, très bon projet. Et j'ai commencé à le suivre à partir de ce moment-là, et son album I Was supérieur à I Am.
Oui, il est bien. Hein, ouais.
Est-ce que tu peux nous faire une imitation du flow de 21 Savage ?
Non.
Voilà.
Bon, c'est très mauvais.
Il y a un son sur le dernier album qui s'appelle ASMR et ça lui convient bien, je trouve.
Ah ouais.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Mais là, ce que je viens de faire, c'est le flow générique de 90% des rappeurs.
Mais ça colle super bien avec les instrus de Metro Boomin parce qu'il y a une ambiance assez inquiétante, ouais. Quoi, on va dire, avec ce flow-là.
Ouais, parce que tu sais, en plus, il parle tout doucement. Enfin, il parle, tu vois, il mumble.
C'est un peu glaçant, quoi.
Et ouais, ça fait très froid, c'est très, très storytelling, nonchalant. Et XXXTentacion, c'est parce que ouais, je m'étais mangé la vibe quand il est sorti. Et à son âme, il est mort.
Ouais, qui avait un gros succès.
Moi, je l'associe plus à l'emo rap pour le coup.
Ouais, XXXTentacion.
Mais bon.
Ok, donc toi, c'est les deux que.
Et Ski Mask d'Aslum God, dont j'ai écouté l'album et qui m'a grave fait kiffer, mais je suis pas plus que ça en particulier, mais.
Qui vient de Miami aussi, enfin, comme XXX.
De toute façon, c'est dur d'évoquer tout le monde là dans les jeunes rookies de la trappe. Donc c'est pour ça que là, on fait un petit peu votre top. Toi, Jojo ?
Moi, j'ai envie de parler d'abord d'un producteur, c'est Pierre Bourne.
Pierre.
Qui a le meilleur jingle de... Enfin, vu que les producteurs ont leur jingle à chaque fois, lui, il a la meilleure signature. Et lui, donc, il a des artistes un peu qui collaborent étroitement avec lui, notamment Young Nudy, à qui on peut reprocher d'être un peu... trop ressemblant à Gucci Mane, mais bon, qui, je trouve, s'extrait un peu de ça, et il a vraiment des projets super intéressants. Et Playboi Carti, qui lui, c'est un gros délire. On va dire qu'au début, c'était vraiment du son de fonce-dé, en fait. T'as l'impression qu'en écoutant, ça te défonce. Il y a un truc hyper vaporeux, hyper bizarre. Et en fait, t'as l'impression qu'il n'y a pas de couplet, il n'y a pas de début, pas de fin, c'est super déstructuré. Mais avec Pierre Band, ça marche super bien, quoi, les morceaux. Et tous ces projets sont super intéressants. Je conseille le dernier, notamment, qui s'appelle Dilit.
Et on s'écoutera un petit Playboi Carti.
Voilà,
juste
et du
après.
Coup, bah après, j'en ai pas d'autres. Enfin, il y a Lil Baby et Gunna qui sont intéressants
aussi.
Voilà,
on pourrait vous parler d'eux. Rich the Kid.
Mais il y en a vraiment plein, quoi. On n'aura pas le temps de tous les évoquer.
Exactement, donc là, c'était le but de faire une petite sélection dans la cour de la récré. Merci à vous. On s'écoute Playboi Carti et on revient pour la dernière partie. À tout de suite.
Yes.
De retour pour cette dernière partie de Deeply Rooted et nouvelle rubrique, également le menu maxi best-of.
Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Passez commande s'il vous plaît. Best-of ou maxi best-of?
Maxi best-of.
Je vais demander à chacun de nos chroniqueurs, donc à Momo et Jojo, de nous citer les trois albums les plus représentatifs, qu'ils ont le mieux aimé par rapport à l'émission.
Bah là c'est vraiment histoire le plus représentatif, je crois qu'on est tous d'accord, en fait ça ressort à travers nos parties. C'est,
Là vous êtes mis d'accord sur les trois, c'est ça?
Ouais, mais ça c'est évident, en fait, vu qu'il y a chez Future il y a DS2 qui est quand même le projet qui ressort.
Le plat de résistance DS2 pour accompagner
Barter 6 de Young Thug et Culture de Migos, donc.
Où on peut piocher dedans.
Voilà, on a, avec ça, on a un bon condensé de ce qui s'est fait dans les années 2010, et donc je pense que c'est très représentatif et très qualitatif.
Ok, bah allez, écoutez ça. Dernière partie, on parle généralement aussi des influences, et là, la trap, c'était un énorme morceau, encore aujourd'hui, de toute façon, c'est le genre qui a peut-être duré le plus longtemps. D'ailleurs, c'était un peu ma première question, c'était est-ce que c'est le sous-genre dans, parmi tous ceux qu'on a abordé, qu'on abordera, qui est le plus prédominant de par sa durée, de
sa longévité,
l'influence qu'il a eu dans le monde?
Oui, alors après, nous, les trois émissions qu'on a fait, on voit bien qu'en fait ça a vachement évolué et que c'est plus du tout pareil, mais c'est qu'en fait ça représente finalement une vibe du Sud. C'est tout ça qui lie en fait toute cette histoire. Et oui, clairement, là, c'est assez. Je sais pas si on peut considérer ça vraiment comme un genre. Tu vois, c'est tellement.
Ça englobe tellement de choses.
Que, ouais. Voilà.
Aux États-Unis, ils ont réussi à en faire autre chose et à le faire évoluer. On va peut-être arriver à la France et à son influence. Justement, est-ce que c'est de la trap qu'on écoute en France? Et depuis quand?
C'est un mélange particulier parce que, comme on l'avait dit, aux États-Unis, il y a la trap. Et il y a la trap nouvelle, entre guillemets. Et il y a la drill aussi qu'il y avait à Chicago, qui en termes de sonorité est très proche de la trap.
On l'a évoqué déjà dans un épisode que vous pouvez aller écouter.
Exactement, mais qui est culturellement, on va dire, un peu différente. Et en France, c'est un mash-up de tout ça, quoi.
Il y avait des sons Dirty South aussi, où il y avait des rappeurs français qui étaient dans cette veine-là.
Bah, à l'époque, Booba et Mac Tire, pour citer qu'eux, ils avaient fait ça sur des mixtapes, sur je sais plus quel album, sur le premier album de Mac Tire, il était grave là-dedans.
Ghetto Blues Gang un petit peu.
Ghetto Blues Gang, ouais. Même cette Gecko et Salif à un moment sur un feat, enfin il y a eu quand même des épisodes sales, la Fouine aussi.
Donc pour beaucoup la trap arrive en France
avec
2012-2013 avec ouais. Notamment Or Noir qui serait un peu le
maître étalon du genre, mais ça ouais. Reste de la drill, tu vois. Enfin c'est un mélange de trap et de drill, il y a un gros débat, hein, c'est très intéressant, mais en termes de sonorité c'est entre les deux. Mais moi je dirais que c'est quand même plus proche de la drill du Chicago.
Oui, on a beaucoup dit de Kaaris, enfin, moi je suis pas forcément un grand fan, et même de manière générale le rap français je connais moins. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup dit à la sortie d'Or Noir que Kaaris s'inspirait essentiellement de Lil Reese, les mecs de Chicago, Chief Keef.
Ouais, tout à fait.
Mais pareil pour Gradure aussi, c'est de la,
oui,
c'est
voilà.
De la drill
ouais,
qui fait. Et...
Mais sauf qu'en France, quand ils arrivent, non on dit que c'est la trap qui ouais. Débarque en France. Et donc là, à partir de ce moment-là, que ce soit des grosses têtes d'affiche, se mettent tous à faire de la trap qui, justement, peut regrouper d'autres styles. Et jusqu'à un tel point que, après, en farfouillant un peu dans les chroniques, etc., on a la question est-ce que la trap a tué le rap français? Parce que maintenant, il n'y a plus que ça. Ce qui n'est pas vrai, c'est bien pas sûr, vrai, mais c'est vrai que c'est tellement prédominant et tellement influent que...
Même aux États-Unis, en gros, c'est fort parce que tout le monde peut faire de ça.
Oui, même donc, LA, maintenant, fait une sorte de trap, alors à sa sauce, mais même à LA, on peut considérer qu'ils ont rapproché ce wagon-là, quoi.
Mais c'est tellement addictif comme style que les gens demandent du mal à demander autre chose, quoi, enfin à vouloir autre chose.
Sauf que ça vient aussi un peu avec la mort de l'utilisation du sample, alors qu'il n'est pas dû spécialement à la trap, mais...
Ouais, enfin, c'est une rap moderne, la trap, si tu veux. C'est-à-dire que c'est vrai que les textes sont moins... on va dire que c'est moins important qu'avant, c'est moins étoffé qu'avant, mais il y a tout le truc autour aussi, les adlibs, etc. En fait, tout le... L'attirail du rappeur est un peu plus varié, on va dire. C'est-à-dire que le rappeur, avant, il déclamait un texte, et c'était aussi le texte qui était très important. Maintenant, il y a tout ce qu'il y a autour, en fait, le flow est plus important. Vraiment tout l'habillage du morceau qui est fait par le rappeur et qui, je pense, ça a été amené par la trap.
Et la révolution au niveau des beatmakers aussi, ouais, je sais pas.
Carrément, parce que c'est devenu des stars maintenant.
Voilà, maintenant on voit des morceaux qui sortent, j'en sais rien, pour Booba et ou quoi. C'est des mecs dans leur chambre qui ont fait un instru, qui l'ont envoyé, qui l'ont fait eux-mêmes et le truc cartonne.
Ça, c'est l'avènement d'Internet après, tu vois. C'est,
aussi,
c'est
et des nouveaux outils, l'accès aux choses. Mais voilà, mais ça revient aussi à l'idée que certaines personnes peuvent penser que c'est facile la trap, qu'au niveau des. Les prods sont stéréotypés, pour poser, c'est toujours le même pattern et c'est assez basique.
De toute façon, c'est voué à se renouveler tout le temps parce qu'au bout d'un moment, comme ça va très rapidement, au bout de quelques mois, t'as les mêmes sonorités, il y a quelqu'un qui va essayer de trouver un nouveau kit, d'autres trucs pour produire, etc. Donc c'est ça qui est fort avec la trap aussi, c'est que ça s'adapte très vite et c'est très vite évolutif. Tu vois.
Voilà, on l'a vu aux États-Unis que ça n'avait pas empêché que ça évolue de toute façon, même si on considère toujours qu'on est dans l'ère de la trap. Que ça continue. Est-ce que vous avez un peu des artistes en France, vous, qui vous ont marqué, qui sont dans cette veine-là?
Ah ouais, j'en ai une pelletée. Le mec, pour moi, qui maîtrise le mieux actuellement, c'est Hamza. Il n'est pas français, mais il est belge. Vive la Belgique. Clairement, en termes de ce qui est mumble, dans le flow, il n'a quasiment rien à envier aux Américains, si ce n'est qu'il a commencé à faire ça plus tard. Il y a un mec comme Cinco, qui est moins connu, et qui est très bon aussi, les mecs de 13 blocs, eux pour le coup ont fait de la trap sur leur premier projet. Et là ouais, ils sont très très forts, leur dernier album huge. Frisk Orleans qui est un descendant de la drill aussi, mais qui se modernise aussi un peu actuellement.
Donc ça c'est dans les récents que les gens peuvent aller écouter, ouais, que je connais généralement parce que ils tournent pas mal et qui sont un peu dans cette influence là et qui viennent des gens qu'on a parlé.
Le petit Louvre Esval aussi, bah, affilié à El Capote.
On peut quand même parler de PNL, même si c'est pas un truc cloud, etc. Mais ils sont quand même, je pense, notamment futurs, à une certaine influence sur ce qu'a fait PNL. Et il y a un truc qui est intéressant de dire, moi j'ai vu cette info passer récemment, c'est-à-dire qu'en 2019, le dernier album de PNL, en termes de première semaine, les ventes de la première semaine, ils ont fait un chiffre plus gros que toutes les ventes de première semaine de tous les artistes d'Atlanta cumulés. C'est quand même assez énorme et ça montre que le rap français aujourd'hui a atteint un niveau comme.
Ouais, ils se débrouillent assez bien tout seul.
Ah ouais, enfin, ça va, ouais. On a toujours été le deuxième marché de rap dans le monde. Mais là, moi, je trouve qu'on a. C'est un peu prétentieux, mais non pas qu'on a rien à enlever, pas à leur envier, parce qu'on a toujours un peu de retard. Mais on a combler le gap qu'il y avait entre nous, et j'ai regardé des artistes en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, non, les Européens, franchement, on n'a pas à rougir, et ils ont plein de petites têtes qui sortent un peu partout, et c'est très très cool.
Mais donc c'est un genre qui réussit plutôt bien à nos Frenchies.
Ouais, carrément.
Voilà, on a fait le tour, on vous balancera donc sur notre nouveau site, on vous rappelle, c'est la grosse actu pour nous, c'est qu'on sort deeplyrooted.fr où vous allez pouvoir retrouver une carte avec tous nos podcasts, nos vidéos, nos playlists autour de chaque émission, donc on va vous mettre des sons en plus, vous n'allez pas manquer de contenu. Donc on vous sort ça, on va vous sortir des nouvelles choses sur les réseaux sociaux aussi, restez branchés, n'hésitez pas à écouter nos anciens podcasts qui sont disponibles justement sur notre site. On espère que vous avez kiffé cette série sur la trap qui se clôture pour l'instant, j'ai envie de dire, mais on y reviendra peut-être. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain.
Yes.
Merci à vous les gars.
RIP Fredo Santana.
Et on se quitte sur un son français franco-belge. Non, belge.
Belge.
Hamza avec Damso pour God Bless. Et on vous dit à bientôt. Ciao.
Yes, ciao.
Ciao.